nzamba
nzambira samirana
Nous sommes mercredi 15 septembre 2021. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs, sur la radio Inzamba Gate Kakawe. Merci d'être avec nous. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord la charpente. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale de la démocratie. Au Burundi, les valeurs démocratiques sont constamment foulées aux pieds, nous dira dans ce journal Frédéric Mvuginyouvila, ancien vice-président du Frodebu, le Front pour la démocratie au Burundi. Le président de la Fondation Pax Burundi, en même temps secrétaire général du CNDD-FDD, les Véliens du Coulier s'approprie des bâtiments de la maison Shalom de Luigi pour abriter les activités de son académie de football. La représentante légale de la maison Shalom, Marguerite Valanguitze, crie en l'injustice. Et puis en Imbonerakure, nommé Mwarabu de la colline Kizina, en commune Gihanga de la province de Bubanza, est porté disparu depuis vendredi dernier. Sa famille craint pour sa sécurité. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Alexandre Nyungeko, bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs, suivant la position de votre écoute, soyez les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Le monde entier célèbre son mercredi la journée internationale pour la démocratie. L'ancien vice-président du Frodebu, Frédéric Mvuginyouvila, constate malheureusement que cette journée arrive au Burundi au moment où la démocratie aux abois. Il donne comme exemple le verrouillage de l'environnement politique, le musellement de la société civile et des médias, sans oublier beaucoup de violations des droits de l'homme. Pour lui, il faut un multipartisme concret où les partis politiques concourent réellement et pacifiquement aux élections. Les détails dans ce reportage signé Josine Kazé.
La démocratie doit avoir les bases. Elle ressort des élections libres. Une majorité présidentielle gouverne pour l'intérêt du peuple et l'opposition, quant à elle, a la mission d'observer, de conseiller la majorité qui devrait travailler ensemble avec la minorité pour l'intérêt de la nation. C'est ce qu'indique Frédéric Mvuginyouvila, l'ancien vice-président du parti Frodebu, grand démocratique du Burundi qui a milité pour l'instauration de la démocratie au Burundi. Pour lui, on chante, mais on ne vit pas la démocratie au Burundi.
La démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, elle est là. Elle est vécue d'une manière ou d'une autre, mais en réalité c'est comme si on avait du vernis. On chante la démocratie, on ne vit pas la démocratie. Et les institutions dites élues, elles sont là, mais l'élection telle qu'elle a été, justement, ne devrait pas donner naissance aux autorités qui ne devraient pas être celles-là. La majorité qui gouverne a la mission de mettre en pratique ce programme qui est là pour l'intérêt du peuple. Et l'opposition, quant à elle, a la mission d'observer, de critiquer, de conseiller. Et elle aussi doit se préparer pour que les échéances suivantes puissent gagner les élections et participer à la gestion de l'État.
Le comportement au niveau des élections au Burundi montre que le parti au pouvoir souhaiterait autre chose que la démocratie et les partis de l'opposition devraient s'organiser pour le changement.
Il y a quand même de l'espoir. J'ai vu que le peuple attend le changement qualitatif. Et ce qui s'est passé en 2020 montre que le peuple, finalement, malgré tout, garde un œil vigilant et attend une occasion. Parce que le peuple n'a pas voté pour le CNDD-FDD, qui avait cependant de l'argent, qui avait de la force pour l'intimider, qui avait tout pour que les populations puissent voter pour lui. Mais le peuple a déjà constaté que ce parti n'est pas là pour les aider, pour les diriger convenablement. Il a besoin d'une autre force politique.
Pour rappel, le multipartisme au Burundi date du 23 juillet 1992. Avec l'agrément du parti savoyen Frodebu par le ministère de l'Intérieur, le principal parti de l'opposition à l'époque, qui est entré en compétition contre le parti Uprona, parti unique à cette période.
À l'occasion de cette journée, l'ONG locale Parsem appelle les autorités burundaises au changement de comportement par rapport aux valeurs démocratiques. Faustin Dikumana dénonce, entre autres, l'égoïsme, le non-respect de la divergence d'opinion, de la liberté d'expression et du respect de la revendication en camp de justice. On l'écoute.
Et d'abord, le comportement des dirigeants après l'élection est très essentiel. Il faut vraiment bannir l'égoïsme des dirigeants, le détournement et l'enrichissement illicite des hautes autorités, des dirigeants, la violation de la loi ou bien le comportement d'écraser les plus faibles en utilisant la position qu'on a dans le pouvoir. Deuxièmement, la démocratie doit être centrée sur la séparation de pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Et aussi un élément très important, c'est la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. Il ne faut pas que les militaires, quel que soit leur rang, sans utiliser la force de l'arme, au lieu de respecter la loi dans la gestion démocratique de toute société. Un autre élément très important, alors, ce sont les libertés, les droits des citoyens dans un régime démocratique. D'abord, la dignité humaine. Chaque personne compte. Quel que soit son rang, il compte. Les libertés, liberté d'opinion, le droit de voter, le droit de réunion, droit d'association, etc. Il y a aussi l'égalité de tous devant la loi. L'égalité des chances, pas que le gouvernement joue la partialité étatique ou une partie de la population peut avoir des faveurs au détriment d'autres sur des critères partis politiques, claniques, ethniques, régionales ou autres. La tolérance politique, la démocratie garantit la divergence d'opinion. Il y a aussi le droit de la revendication. En démocratie, quand il y a des violations de la loi, quand les gens se sentent dans une injustice, menacés par une injustice quelque part, ils doivent revendiquer aussi l'accès à la justice, comme on l'a dit.
Pas de traces dans certains marabouts de la colline Kizina, de la commune Guihanga. Nous sommes en province de Bubanza. Selon ses proches, il a été emmené vendredi dernier par le responsable de génie Monelakure du parti CNDD-FDD sur cette colline, soi-disant pour effectuer une patrouille nocturne. Depuis ce jour-là, sa famille ne l'a plus revu. Elle dit craindre pour sa vie. Les précisions de Jean-Marie Ndabashinze.
L'homme porté disparu est un ouvrier, membre de la Ligue des jeunes du CNDD-FDD, selon des proches. Il a refusé de répondre à un appel téléphonique du responsable des Imbonerakure sur la colline Kizina, selon la même source. Celui-ci est allé par la suite le retrouver à son domicile et lui a demandé de le suivre. Un proche raconte.
Cette nuit-là, selon sa femme, il a pris un de ses poignards et il est parti faire le soi-disant travail, mais elle a attendu le retour de son mari, mais en vain. Elle a par après appris que les personnes qui étaient avec lui sont rentrées et que son mari avait été enlevé par des agents des renseignements qui auraient été auparavant impliqués dans une affaire louche et que ces bourreaux voulaient éliminer un témoin gênant.
Plus les jours passent, sa nouvelle de mars, il nommé Marabou, plus l'espoir de le retrouver vivant s'effrite.
S'il est encore en vie, qu'on nous informe de son lieu de détention et qu'il soit présenté devant la justice. Et s'il a été tué, qu'on nous donne son corps pour qu'il soit enterré dignement et pour qu'on fasse le deuil. Le fait qu'il a été appelé par le patron des Imbonerakure et qu'on ait sans nouvelles de lui ne nous rassure pas.
Nous n'avons pu joindre par téléphone ni le chef des Imbonerakure sur la colline Kizina, ni le porte-parole de la police. Cette disparition rappelle le maître de deux autres Imbonerakure retrouvés morts en octobre 2019 après avoir reçu des appels téléphoniques des responsables de cette ligue de jeunes. Il s'agit de Désiré Akizimana, surnommé Binobine. Il était responsable des Imbonerakure sur la colline Buramata. C'est toujours dans la même commune de Guihanga, dans la province de Bubanza. Il a été abattu de 6 balles le 23 octobre 2019. Il était parti de son domicile après un appel téléphonique du représentant des Imbonerakure dans cette même commune. Ce dernier lui demandait de le rejoindre au chef-lieu de la commune, selon le rapport de la Ligue TK d'octobre 2019. Le même rapport note également le meurtre de Martin Nyabender, 17 ans, en Imbonerakure de la commune Busiga, en province Ngozi. Son corps, sa vie, a été découvert le 6 octobre 2019, un jour après sa mort. Il était parti après avoir reçu un appel téléphonique, lui demanda d'aller rejoindre d'autres Imbonerakure à la ronde nocturne. Pour tous ces maîtres, nous n'avons pas encore pu avoir la réaction des responsables de la Ligue des jeunes du CNDD-FDD au pouvoir, Sylvestre Ndayizeye.
Dans la même province de Bubanza, un jeune représentant les signes d'une maladie mentale vient de passer plus d'une semaine en détention préventive dans la prison de Bubanza. Les autres prisonniers dénoncent la réaction des chargés de la sécurité qui l'ont passé à tabac jusqu'à provoquer des lésions corporelles. Ils demandent à la Direction générale des affaires pénitentielles d'acheminer cette personne dans une institution spécialisée pour le traitement des cas de malades mentaux. Plus de détails avec Jacob Sivoman.
Nommé Tutu Lugendo, ce jeune homme présente les signes d'une personne vivant avec une déficience mentale. Il est en détention préventive dans la prison de Bubanza. Les sources de la radio Nzamba dans cette maison de détention indiquent que depuis son arrivée, les autres prisonniers qui sont avec lui dans les cellules ne dorment plus. Il fait du bruit et provoque des casses sur son passage. Il lui arrive souvent d'enlever tous les vêtements et se promène tout nu dans les chambrettes et corridors de la prison. Il est accusé de consommer des stupéfiants. Lors de son arrestation, il aurait été surpris en possession de 2 boules de chanvre cannabis, selon une source au sein du commissariat de police à Bubanza. Les prisonniers chargés de la sécurité dirigés par le surnommé Buregeya, en réponse à son comportement, l'ont battu jusqu'à lui infliger des plaies au niveau des fesses. Certains policiers qui assurent la garde à cette prison plaident pour le transfert de ce jeune dans une structure des soins pour cette déficience mentale. La rédaction de la radio Nzamba Agathe Kakaawe n'a pas encore eu la version de la direction de la prison de Bubanza. Nous n'avons pas non plus pu joindre Gervais Hadjayandi, directeur général de la direction des affaires pénitentiaires, pour savoir ce qu'il compte faire pour sauver la vie de ce jeune homme en détention dont les parents seraient à l'étranger.
Inzamba.
La suite de ce journal, c'est un appel au secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Marguerite Balanguit, se demande à Révérien Dikourio d'arrêter de s'approprier par force des biens privés. C'est en réaction aux activités de sa propre fondation Pax Burundi qui seront hébergées dans les locaux de la maison Shalom de Luigi sans autorisation du propriétaire. Marguerite Valanghitze, représentante légale de la maison Shalom, appelle les confessions religieuses à décrier ce qu'elle qualifie de tyrannie du parti au pouvoir. Le point avec Vanessa Moïtek.
Les locaux de la maison Shalom de Luigi vont désormais abriter l'académie de football Aigre-Noir appartenant à la fondation Pax Burundi. Le président du CNDD, FDD, en même temps patron de cette fondation, a officiellement lancé ce mardi des travaux de cette académie.
Je voudrais remercier la province de Ruigi qui nous a témoigné beaucoup d'amour. On vient de passer ici 2 ans et durant ces 2 ans, vraiment, on vous dit merci. Vous avez fait preuve d'entraide, nous avons vu des aides provenant des communes, nous en avons vu d'autres émanant des particuliers, chacun sur son compte. Nous restons reconnaissants, on a senti la fierté à la Burundaise.
Cette activité a suscité de vives réactions du côté de la maison Shalom en exil. Marguerite Balanguité, sa présidente, qualifie cette procédure de tyrannie du pouvoir CNDD-FDD.
Mon cher frère Révérien Dikourio, je voudrais vous dire que la tyrannie du système CNDD-FDD un jour tombera et laissera la place à la nouvelle génération. La nouvelle génération qui voudra casser ce cycle de violence du Burundi, qui m'avait peut-être fait lever parce que j'avais refusé la haine. Et je voudrais lui dire que cette maison Shalom, ce ne sont pas ces briques, ce ne sont pas ces billets de la banque. Maison Shalom, c'est un message. J'ai voulu élever des enfants Hutu, Tutsi, Batwa et de toutes les provinces pour leur dire vous êtes une nouvelle génération qui va casser ce cycle de violence. Vous venez de vouloir nous humilier, nous faire taire. On ne peut jamais arrêter l'amour.
La patronne de la maison Shalom lance un appel aux confessions religieuses pour intervenir et enseigner les valeurs d'amour et de respect de la personne humaine, contrairement aux enseignements du parti au pouvoir.
Je voudrais m'adresser à tous les dirigeants, à tous nos pasteurs, à tous nos évêques. C'est de refuser cette tyrannie. C'est de refuser qu'on nous humilie. C'est de refuser que nous courbions les chines, qu'on nous emprisonne, qu'on nous tue, qu'on nous viole. Cette tyrannie va cesser. Le mal n'aura jamais le dernier mot. C'est l'amour qui triomphe toujours.
Ces locaux appartenant à la maison Shalom de Ruyigi avaient été conçus pour intervenir dans le secteur communautaire et humanitaire. Il s'agissait entre autres d'un hôpital, des centres culturels pour enfants ainsi que d'autres maisons de passage.
Maître Janvier Bikinimana explique que la loi burundaise prévoit normalement des procédures légales lorsqu'il s'agit d'expropriation pour une cause d'utilité publique. Il dénonce une violation flagrante de la loi de voir un tel responsable du parti s'approprier publiquement des locaux de la maison Shalom.
La loi burundaise, et plus particulièrement le code des fonciers, prévoit des procédures qui doivent être respectées lorsque les questions d'exproprier une personne, qu'elle soit physique ou morale, pour une cause d'utilité publique. Mais au lieu de passer par d'autres procédures, qu'après avoir dévaliser les habitations, les biens immobiliers de la maison Shalom. Aujourd'hui, on s'approprie de façon publique, de façon éhontée, les biens immeubles qui appartenaient toujours à cette organisation aujourd'hui en exil. C'est une violation grave aussi de la Constitution, notamment de l'article 36, qui prévoit que nul ne peut être exproprié que lorsqu'il s'agit d'une cause d'utilité publique et après avoir reçu une indemnisation préalable qui doit être juste et équitable. Dans le cas d'espèce, et notamment compte tenu de l'article 23 de la Constitution, qui prévoit que l'État ou les organes de l'État ne peuvent en aucun cas être impliqués dans des actes de harcèlement qui malmènent les citoyens. Et nous sommes aujourd'hui en face d'un responsable de haut niveau du parti au pouvoir qui s'amuse à exproprier, à piétiner toutes les lois, y compris la Constitution ainsi que les textes internationaux qui ont été ratifiés par le Burundi. Nous sommes dans une situation gravissime où la loi n'est plus une référence des actions de l'État et cela est également une violation de l'article 48 de la Constitution qui prévoit que le pouvoir exécutif ainsi que le pouvoir législatif, tout comme le pouvoir judiciaire, doivent avoir comme référence la loi.
Et puis, la conférence des évêques catholiques du Burundi se dit inquiète de l'ampleur du Covid-19 dans nos pays. Dans un communiqué sorti samedi de la semaine dernière et présenté ce mercredi, ces évêques appellent la population au respect des mesures de prévention de cette pandémie. Ces évêques regrettent également beaucoup de cas de personnes assassinées suite aux empoisonnements. Suivez Monseigneur Joachim Naoundereye, il est président de la conférence des évêques catholiques du Burundi.
Les évêques sont unanimement préoccupés par la propagation de la pandémie de Covid-19 sur presque tout le territoire du pays. Ils demandent à la population de se réveiller et prendre conscience que cette pandémie n'épargne personne. La population est interpellée à observer les mesures et gestes barrières telles qu'est dictées par l'État. Les évêques sont aussi préoccupés par la montée des pratiques obscures d'empoisonnement dans le pays. Les citoyens restent tendus pour ne pas être empoisonnés. Les autres vivent dans la peur panique l'un et l'autre jusqu'à s'accuser mutuellement. Des vies humaines sont même emportées. Les évêques constatent amèrement que parmi les personnes qui font ces pratiques obscures figurent des chrétiens. Les évêques lancent un appel vibrant à tous les citoyens qui s'adonnent à ces pratiques obscures de les abandonner, car seul Dieu a le dernier mot sur la vie humaine.
La désignation des seuls militants du CNDD-FDD dans les services de lutte contre le Covid-19 à l'hôpital de Makamba divise le personnel et ce sont les patients qui en sont victimes. Les employés de cet hôpital demandent au chef hiérarchique de cesser de diviser les travailleurs pour l'intérêt de l'entreprise et de la population. Les détails avec Benny Axelakan.
La désignation du personnel dans tous les services à l'hôpital provincial de Makamba se fait sur base d'appartenance politique. Selon les informations émanant de cette structure sanitaire, elle est conditionnée par la présentation de la carte du parti CNDD-FDD pour être affecté au laboratoire. Ceux qui sont affectés dans ce service pour s'occuper des cas liés au Covid-19 bénéficient des primes. Selon la même source, ils reçoivent une prime de 50 000 francs burundais pour toute personne dépistée, qu'elle soit positive ou non. Cette façon de faire paralyse non seulement les activités dans tous les services, mais aussi elle divise le personnel. Les primes octroyées à ces militants du CNDD-FDD depuis la propagation de ce virus sont la cause principale de ces frustrations. Les victimes, ce sont les malades qui n'obtiennent pas de bons services. Les laborantins qui ne reçoivent pas cette prime préfèrent ne pas accueillir ceux qui viennent se faire dépister, car ceux qui ont été désignés par la direction reçoivent seuls des primes de plus de 3 millions à la fin de chaque mois. Le mécontentement touche même le personnel non soignant. Cette source précise que si le stock de la pharmacie de l'hôpital s'épuise, les chauffeurs qui ne sont pas de ce système refusent d'aller l'approvisionner. Les travailleurs de l'hôpital demandent aux autorités hiérarchiques de résoudre pour l'intérêt de l'hôpital et pour celui de la population. Nous n'avons pas pu joindre Évariste Niondiko, médecin directeur du district sanitaire de Makamba, pour qu'il s'exprime là-dessus.
Inzamba.
Et l'OACR et les autorités kenyanes sont interpellées pour se saisir du cas d'un enfant d'une famille réfugiée dans le camp de Kakuma. La commission médicale avait décidé de transférer cet enfant pour des soins urgents à Nairobi, mais ce transfert n'a pas été exécuté. La coalition burundaise de défense des droits de l'homme et des réfugiés dans la sous-région CBDH-Vicar dénonce une violation des droits des réfugiés en matière de la santé. Suivez Léopold Chalangabo, il est vice-président de cette association.
Normalement, le budget de HCR est subdivisé en partie d'OCR qui a destiné la santé. Mais nous avons remarqué que certains agents du HCR et des gouvernements boycottent souvent les rendez-vous donnés par les médecins. Ce qui est arrivé à la famille Mwarabu doit être déploré. La sabidage du CAR déplore énergétiquement ce comportement des agents du HCR et des gouvernements, bien sûr, au niveau des camps, parce que la vie est comme longue. Et doit être sauvé dans le meilleur délai. Nous demandons au HCR Kenya de faire tout prix pour que la vie de cet enfant de Marabou soit sauvée et faire aussi des autres réfugiés qui sont dans différents camps de réfugiés. Nous demandons également au HCR au niveau régional de suivre de près ce qui se passe dans le domaine de santé parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités.
Rappelons que cette famille du camp Kakuma ferait objet de menaces pour avoir réclamé le transfert de son enfant malade. Parlons cette fois-ci de l'Olicom, de la décision qui a été prise de révoquer la sénatrice Stace Caritas Njebel Kanouye. Selon Gabriel Rufyiri, son président, cette décision est juste, mais qu'elle devrait s'étendre à beaucoup d'autres gens qui ont la main sale dans les marchés publics. On l'écoute.
Pour Olicom, c'est vraiment une action importante. Souvenez-vous, on a dit que pour question de morale, éthique et de droit, cette personnalité n'avait pas vraiment aucun droit de poser, d'avoir un marché public parce qu'il y a le principe de l'incompatibilité qui y a été violé. Donc, pour nous, c'est une très belle décision. Quand même, c'est une décision juste, mais qui est loin d'être une décision qui peut juguler les formes de vol, de toute forme de marginalisation qu'on observe. C'est loin de là vraiment. L'Olicom recommande qu'il y ait des mesures beaucoup plus générales et qui sont suivies. D'abord, la première mesure, c'est la mise en place d'un registre national public où tous les membres fondateurs des sociétés qui gagnent les marchés publics, comme celle de Mme Stace Njebel Kanouye, figurent dans ce registre national public pour voir les membres fondateurs. Ça, c'est extrêmement important. Et qu'il y ait suivi et exécution de cela, pour que tout le monde puisse dénoncer, voir s'il y a un mandataire public ou une autre personnalité qui viole la loi, soit poursuivi. Ça, c'est un. De deux, nous demandons à ce que la loi concernant les incompatibilités soit respectée. Il y a des mandataires publics et des hauts fonctionnaires de l'État qui ne peuvent pas exercer le commerce, mais qui le fait. Nous savons que le cas de Mme Stace Njebel Kanouye, c'est loin d'être un seul cas. C'est beaucoup se généraliser dans tous les domaines. Il faut donc des mesures strictes et correctes. Trois, nous pensons qu'il doit y avoir aussi la mise en application des déclarations de patrimoine et des mandataires publics à tous les niveaux, juste pour voir comment les choses sont en train de marcher.
Un mot de sport pour boucler ce journal. L'athlète burundaise Francine Niyonsaba a battu le record du monde dans la course de 2000 mètres en 5 minutes 21 secondes 56 tiers ce mardi lors du meeting de Zagreb en Croatie. Francine Niyonsaba, qui améliore de plus de 2 secondes le chrono réussi en 2017 par l'Éthiopienne Genzebe Diababa, qui avait fait 5 minutes 23 secondes 75 tiers. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à ce journal. Merci bien à vous tous qui nous avez prêté oreille attentive. Merci à votre fidélité à la radio Inzamba Agathe Kakawe. Merci à tous les confrères de la radio Inzamba Agathe Kakawe pour avoir réalisé et produit ce journal. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée suivant la position de votre écoute. Au revoir et à la prochaine.